Bienvenue sur Galabertiti,
le son du collège.
Une émission réalisée par les élèves du collège de la Galaberte.
Interviews, articles, chroniques et actualités,
on y parle de tout et n'importe quoi.
Yeah.
Bienvenue dans l'émission Galabertiti.
Nous sommes Emma
et Mathilde.
Aujourd'hui, nous allons vous présenter une émission. Il sera question de cuisine, de cultures différentes et de citoyenneté. Maintenant, pour commencer, Evan va vous parler de l'œuf cocotte en pommes de terre et le gâteau de raclette.
Bonjour et bienvenue dans les recettes de Vanou. Aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter une, mais deux recettes. La recette d'un œuf cocotte en pommes de terre et d'un gâteau de raclette. Maintenant, on commence par l'œuf cocotte de pommes de terre pour 3 personnes. D'ailleurs, saviez-vous que la pomme de terre nous vient d'Amérique du Sud ? Elle est originaire des Andes du Chili et du Pérou. Elle débarque en Espagne en 1534 et de là, en 1588, elle est renvoyée en Autriche au savant botaniste Clusius qui la répand dans les États allemands. On reprend la recette. Pour ceci, il vous faut 3 cuillères à soupe de crème fraîche, 40 g de lardons, une pincée de poivre, 3 pommes de terre, 30 g de gruyère et 3 œufs. Tout d'abord, préchauffez le four à 200 degrés, lavez les pommes de terre sans les éplucher, puis cuisez-les à l'eau ou à la vapeur. Une fois cuites, coupez le dessus de la pomme de terre de sorte à former un chapeau, puis videz la pomme de terre à l'aide d'une cuillère. Et faites attention à ne pas transpercer le fond de la pomme de terre. Déposez dans chaque pomme de terre vidée une cuillère de crème fraîche, un œuf, parsemé de lardons et de gruyère, puis poivrez. Déposez les pommes de terre sur une plaque recouverte d'un papier cuisson et enfournez 20 minutes. La cuisson terminée, sortez les patates du four et dégustez. Et voilà, j'espère que la recette vous aura plu et maintenant on passe au gâteau de raclette. Pour commencer, voici les ingrédients pour 6 personnes. Il vous faut du sel, 1 kg de pommes de terre, 20 tranches de fromage à raclette et des tranches de poitrine fumée. Passons à la préparation. Cuisez les pommes de terre dans l'eau, épluchez les pommes de terre et coupez-les en rondelles. Ensuite, préchauffez le four à 180 degrés thermostasis, puis dans un moule huilé, déposez les tranches de poitrine en les faisant légèrement déborder du moule. Déposez une couche de fromage, une couche de pommes de terre, une couche de fromage et ainsi de suite jusqu'à épuisement des ingrédients. Ensuite, repliez les tranches de poitrine pour refermer le gâteau et pour finir, enfournez 30 minutes. À la fin de la cuisson, vous n'avez plus qu'à à déguster. Mais faites attention à ne pas vous brûler. Cela peut être chaud en sortant du four. Et voilà, mes recettes sont fifi. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes mes recettes sur www.marmiton.org. À la prochaine fois où je vous présenterai la recette d'une quiche au lardon. Au revoir.
Merci à toi, Evan. Maintenant, Marcel va nous présenter une chronique sur la cuisine japonaise.
Bonjour et bonne année. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'interview de ma voisine japonaise, Satomi, que j'ai fait pour Galabertiti, le son du collège. Je vous souhaite un bon moment, je reviens tout de suite.
Bonjour et bienvenue au Club Média, Satomi. Qu'est-ce qui vous plaît dans la cuisine japonaise ? Qu'est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce qui vous plaît dans la préparation ?
La préparation, j'aime bien couper les petits morceaux déjà, avec mon très bon couteau japonais que j'ai emmené par le Japon, après mon mariage. Et qu'est-ce que j'aime bien de la cuisine japonaise ? C'est le souvenir de mon père. Parce que mon père, il a souvent cuisiné dans la maison et il a fait beaucoup de lactofermentation aussi. Mais quand j'étais petit, quand j'étais à la maison, je n'ai jamais cuisiné. Parce que c'est mon père qui l'a cuisiné tout le temps. Mais comme j'ai grandi, que j'ai regardé beaucoup mon père et ma grand-mère aussi, parce que j'ai habité avec ma grand-mère, quand je cuisine, je fais la même chose que comme mon père. Donc ça me fait plaisir quand même parce qu'on a des distances au Japon et en France. On habite très loin. Pour moi, c'est souvent le souvenir de mon père.
Quel est l'ingrédient que vous pr- préférez utiliser?
J'aime bien sauce tofu soyu en ce moment. Parce que bon, ça n'existait pas. S'il y avait que du tofu dur, ça c'est bien aussi. Mais tofu soyu, on aime bien utiliser pour le soupe miso avec le wakame. En été, on mange pour l'apéro avec le gingembre râpé et negi, c'est l'oignon plantain. C'est avec sauce soja. C'est très bon.
Quel ingrédient vous pouvez nous conseiller à avoir toujours à la maison si on a envie de faire des repas japonais?
Déjà, bien sûr que sauce soja. Mais c'est pas la sauce soja sucrée. Et ça, au Japon, ça n'existe pas.
D'accord.
Sauce soja salée.
Ah oui, salée, ouais. Ouais.
Et le miso.
Le miso, ouais.
Ouais. Et le dashi.
Dashi.
Dashi, c'est le bouillon japonais.
D'accord. Quel est votre plat ou la recette japonaise préférée? Enfin, que vous préférez?
J'aime bien plein de choses. Mais qu'est-ce que j'aime maintenant? Je pensais que c'est le gyoza, déjà. C'est un ravioli japonais. Le gyoza classique. Et j'aime bien soupe miso avec le riz. Quand je suis malade, comme je ne sens pas bien, pour me soigner, c'est le riz avec le soupe miso.
Faites-vous souvent de la cuisine japonaise pour des associations ou des fêtes?
Déjà une fois par mois, le cours de cuisine japonais avec le Rokanke. Pour la fête, de temps en temps, oui, quand j'ai le temps. Et pour le repas de Noël, en famille avec mon mari, c'est vrai que la famille de Twist, mon mari qui me demande aussi pour me préparer le repas japonais.
Vous continuez de faire des cours de cuisine japonaise chez vous?
Oui. Une fois par mois, je donne le cours de cuisine japonais avec l'association de Rokanke.
Et c'est quand les prochaines fois où vous faites vos cours?
Le 2 décembre 2023, et samedi, c'est samedi, et 10h jusqu'à midi.
D'accord. Et qu'est-ce que vous nous ferez préparer? Enfin, je dis nous, c'est pour ceux qui viennent à l'atelier.
Samedi 2 décembre, ça c'est pour le cours de cuisine adolescence. Donc à partir de 11 ans jusqu'à 18 ans, des fois c'est un mari comme 20 ans. Et on va le faire onigirazu et dekobento. Dekobento, c'est un boîte à bento. Bento, ça veut dire que c'est le boîte de tous les pique-niques qui est dans la boîte, qui est très beau. Et le déco, c'est la décoration. Donc on va faire le bento de Totoro. Et onigirazu, c'est honte de onigiri et le sushi.
D'accord. Ah, ça a l'air bon. Hein. Je vais peut-être venir. Merci pour m'avoir répondu à mes questions. Et au revoir, à une prochaine fois. Et rebonjour, peut-être que vous l'avez remarqué, mais le samedi 2 décembre est passé. Mais il y a des cours tous les mois. Vous pouvez trouver les ces cours sur le site internet de Lokanke. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était Marcel qui vous avait parlé de la cuisine japonaise la dernière fois. Au revoir.
Merci à toi, Marcel.
Tout de suite, nous allons faire une pause musicale. Cette musique sera le festin de Camille, compositeur Michael. On la connaît car c'est la musique du film Ratatouille.
Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Paul entend chemin tout ce que je peux, car rien n'est gratuit dans la vie. L'espoir est un plat bien trop vite consommé. Et à sauter les repas, je suis habituée. Un voleur solitaire et triste à nourrir. Je suis amère, je ne peux réussir, car rien n'est.
Maintenant, nous allons écouter Louise et Charline qui vont nous parler du triathlon.
Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle chronique radio. Bonjour Charline, comment vas-tu ?
Coucou Louise, ça va super et toi ?
Je vais bien, merci. Alors, pour cette deuxième chronique radio de l'année, nous avons décidé de parler du...
triathlon.
Eh oui. Donc pour commencer, est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce que le triathlon ? Car c'est un sport que tu pratiques.
Oui, le triathlon c'est un sport qui concerne trois disciplines. D'abord la natation, qui se pratique en mer ou en lac. Une fois sorti de l'eau, on court jusqu'au parc à vélo, on nous attend notre vélo, mais aussi nos baskets, le casque et une serviette pour s'essuyer les pieds. Ensuite, on enchaîne avec le vélo et pour finir, la course à pied. Il ne faut surtout pas oublier pour ces deux disciplines de s'équiper du plus important.
Le dossard.
Oui, exact. Est-ce que tu sais à quoi il sert ?
Oui, il sert à nous identifier et savoir que nous faisons bien partie de la course. C'est un papier A5 plutôt solide qu'on accroche sur une ceinture porte-dossard, qui a des pinces spéciales pour l'attacher. Pour le vélo, il faut mettre le dossard dans le dos pour ne pas l'abîmer. Mais pour la course à pied, nous pouvons le mettre devant. Mais alors, comment on fait pour natation puisqu'on n'a pas de dossard ?
Ah oui, pour natation, on donne une puce. C'est un bracelet qu'on met à la cheville qui peut nous tracer si on a un problème et qu'on garde tout au long de la course.
Ah oui, d'accord. Et y a-t-il un autre équipement spécial pour le triathlon ?
Oui, la trifonction. La trifonction est une tenue adaptée pour le triathlon. Elle est waterproof pour la nage et même équipée d'un petit coussinet pour que ça soit plus confortable sur la selle du vélo. Ça permet de ne pas changer de tenue entre les différentes disciplines.
Ah ok, je vois. Mais il me semble qu'on a le choix entre des triathlons de différentes distances.
Oui, c'est exactement ça. Le format XS, qui est la distance la plus courte et qui est constitué de 400 mètres de natation, 10 km de vélo et 2,5 km de course à pied. Ensuite, le format S, c'est 750 mètres de natation, 20 km à vélo et 5 km de course à pied.
Oh, c'est comme la taille des habits ?
Oui.
Alors, je suppose qu'après, il y a le M et que c'est 1500 mètres de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied.
C'est exactement ça. Et ensuite, il y a la taille M, où pour les habitués du Half Ironman, fait 1,9 km de nage, 90 km de vélo et un semi-marathon, c'est-à-dire 21 km de course à pied. Et tu connais le plus grand triathlon ?
Non.
On l'appelle l'Ironman. Il fait 4 km de natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pied.
Eh ben, il en faut du courage.
Et oui, et une fois que nous attendons l'arrivée, un buffet ou juste un ravitaillement nous attend. Mais il y en a aussi un entre le vélo et la course à pied.
Bon, je pense qu'on a fait le tour du sujet.
Oui, on espère que vous en avez appris un peu plus sur ce sport. Au revoir.
Au revoir.
Merci les filles. Aléna maintenant de nous présenter une série Netflix.
Salut, aujourd'hui je vais vous parler d'une série sur Netflix. Il s'agit de Les Justicières. Alors c'est parti. Quatre lycéennes aux États-Unis, animées par le désir de vengeance, s'unissent en secret pour dénoncer le harcèlement qui règne dans leur prestigieuse école. Vous allez rencontrer Kim Addis, Mia McKenna Bruce, Brittany Antonia et Jessica Alexander. Mais attention, pour le regarder, il faut avoir moins de 10 ans. Cette série est dramatique et intrigante. Cette histoire a 10 épisodes de au moins 27 minutes. J'ai choisi cette chronique car je trouve que la série est juste extraordinaire et je voulais vous la faire partager. Famille et ados, à vos écrans.
Merci Léna. Maintenant, la deuxième pause musicale, ce sera Forest de Soprano.
Je raisonne pas trop comme les autres. J'ai des rêves pas trop dans les normes. Est-ce ma faute si je fais les choses quand mon cœur m'en donne l'ordre? J'en ai souffert sur les bancs de l'école de cette différence. Les murmures que porte mon dos ont parfois saigner mon cœur, mais je sais que c'est un cadeau de ne pas faire partie des suiveurs. J'en ai souffert sur les bancs de l'école de cette puissance.
alors je cours à contre-courant vers ce qui me maintient en vie, cette liberté d'être qui je suis. Oui, je cours à contre-courant, même si le monde ne me comprend pas, ça n'a pas de prix d'être soi. J'ai toujours cru en ma bonne étoile, donc j'ai couru en fermant les yeux. J'ai déplacé des tas de montagnes avec la force de mes voeux. Aujourd'hui je connais ma différence et c'est une chance, car je cours à contre-courant qui me maintient en vie, cette liberté d'être qui je suis. Oui, je cours à contre-courant, même si le monde ne me comprend pas, ça n'a pas de prix d'être moi.
Sur Radio Escapade, dans l'émission des collégiens du collège La Galaberte, Galaberte City, le son du collège. Maintenant, nous allons aborder les projets autour de la citoyenneté au collège. Kéléa a interviewé Elisa, on écoute son interview.
Bonjour Elisa.
Bonjour.
Je vais te poser quelques questions qui s'est passé quand tu étais petite sur ton harcèlement. Pour commencer, quand est-ce que tu t'es fait harceler? En primaire?
En primaire.
Quel type de harcèlement était? Harcèlement moral, du harcèlement physique?
Bah plutôt du harcèlement physique, puis de la CE1 à la CM2, c'était plutôt du harcèlement moral.
Le harcèlement moral et du harcèlement, on t'insulte, on te rabaisse, on te fait du mal sans te frapper. Pourrais-tu nous donner des exemples d'insultes que tu as reçues?
Bah je sais pas, des t'es moche tous les jours, de mon physique, sur plein de choses.
Et comment as-tu réglé le problème?
Bah, j'ai attendu la sixième.
Et comment les élèves ou les adultes ont-ils réagi quand tu leur en as parlé?
J'en ai pas parlé en CP, si j'ai changé d'école. Et après, du CE1 au CM2, j'en ai pas parlé.
C'est vraiment dommage que ce soit toi qui aies dû changer que ce soit la victime qui doive partir au lieu que ce soit les harceleurs qui se fassent punir. Est-ce que maintenant ça va mieux ou tu te fais encore harceler?
Non, plus du tout.
Il me semble que depuis 2 ans, à l'école, il y a un système pour réduire le harcèlement. Peux-tu nous en parler du système des ambassadeurs et en quoi cela consiste?
Moi je suis ambassadrice. Le concept, c'est qu'on a une ambassadrice ou un ambassadeur dans chaque classe et qu'il y a des problèmes ou s'il y a des signes, on vient de m'en parler, que moi je puisse commencer à prendre le problème et commencer peut-être à le régler.
Pourquoi as-tu décidé de t'engager en tant qu'ambassadrice?
Comme j'en ai vécu, ça me tenait à cœur.
Du coup, tu t'y connaissais un peu dans le problème?
Exactement.
Est-ce que tu aurais aimé que ce système existe plus tôt, comme ça tu arrêtais le harcèlement quand tu étais jeune plutôt que de changer d'école?
Je pense pas que en primaire on en aurait vraiment besoin. Je pense que en primaire il faudrait vraiment les instituteurs plus proches des élèves.
Merci pour ton témoignage. Alors, contre le harcèlement, évitez de vous éloigner, parlez-en. Vous pouvez contacter le 3018 ou le 3020, c'est un numéro pour parler du harcèlement, contre le harcèlement.
Merci Kéléa. Et maintenant, c'est à vous, Emma et Capucine, sur les éco-délégués.
Bonjour, je vais vous parler des éco-délégués car j'ai été élue par mes camarades.
Alors Emma, c'est quoi un éco-délégué?
Les éco-délégués jouent un rôle essentiel pour mettre en œuvre la transition écologique dans l'ensemble des écoles et des établissements scolaires.
Depuis quand les éco-délégués existent-ils?
Les éco-délégués existent depuis le 24 septembre 2020. Ça a été inventé par le ministère de l'Éducation nationale.
Comment fait-on pour être un éco-délégué?
Pour être un éco-délégué, il y a des élections. Les élèves des collèges et lycées élisent des camarades.
À quoi sert un éco-délégué ?
Au collège, a décidé de faire du tri des papiers, de ne pas avoir de déchets dans la cour et de limiter le gaspillage de la nourriture à la cantine. D'autres actions seront sûrement mises en place durant l'année. Au début, je ne savais pas ce que c'était un éco-délégué. Maintenant, je suis très contente d'être une éco-déléguée pour participer à la vie du collège et qu'il fonctionne bien. Voilà, j'espère que vous avez appris une chose sur les éco-délégués.
Merci, Maïka-Pucine.
On écoute maintenant Kélia, Evan et Iyana qui vont nous parler du projet Affiche Courtoisie du Collège.
Bonjour à vous. Aujourd'hui, vous avez gagné le concours de la meilleure affiche de la courtoisie du Collège de la Galaberte, qui, on le rappelle, sert à sensibiliser les élèves à bien se comporter avec les autres, ce qui implique comportement et langage.
Que ressentez-vous d'avoir gagné avec votre affiche ?
Ça fait plaisir d'être récompensé pour le travail qu'on a fait.
Du coup, vous êtes content ?
Oui.
Donnez-moi un mot pour définir la courtoisie, s'il vous plaît.
Gentil.
Heureux.
Respect.
Laïcité.
Et dites-nous, qu'avez-vous pensé de cette action ? Va-t-elle être bénéfique ou ne va-t-elle rien changer ?
Elle va être très bénéfique envers notre collège.
Oui, elle va être très bénéfique. Enfin, ça va, je suppose que ça va sensibiliser les autres élèves.
Et est-ce que ça fait réfléchir à ta façon d'agir au collège ?
Oui. Pareil.
Et les affiches vont être mises dans toutes les salles du collège. Est-ce que tu penses que cela peut servir à faire réfléchir les autres élèves ?
Je pense que ça va aider à réfléchir parce que quand les élèves s'ennuient, enfin qu'ils n'ont rien à faire, ils lisent en général. Enfin...
D'accord, merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir.
Bonjour madame la directrice.
Bonjour à vous.
J'ai quelques questions à vous poser.
J'y répondrai avec grand plaisir.
Quelle est votre affiche préférée ?
Je n'ai pas une affiche préférée. Il y a beaucoup d'affiches que j'ai trouvées absolument magnifiques et vraiment révélatrices de plein de valeurs que les élèves portent, parfois sans s'en rendre compte, parfois en ayant totalement conscience. Et c'est ce qui m'a paru être vraiment très, très intéressant dans vos travaux.
Merci pour votre réponse. Que pensez-vous des affiches gagnantes ?
Alors je pense que pour les affiches gagnantes, c'est intéressant pour les élèves qui ont participé parce que justement, ils sont récompensés, ils sont applaudis, donc c'est très valorisé. Donc je n'en pense que du bien, mais je pense aussi aux autres affiches. C'est pour cela que lorsque j'ai fait un petit discours tout à l'heure, je l'ai conclu en demandant aux élèves qui avaient gagné, qui étaient récompensés et applaudis, lorsqu'ils allaient retourner dans leur classe, de féliciter aussi tous les élèves qui ont participé à ce concours. Parce que cette fois-ci, il y a eu des gagnants. Peut-être qu'à un autre moment, ce seront d'autres élèves qui seront gagnants.
D'accord. Donnez-moi un mot pour définir la courtoisie.
C'est une question qui est très difficile en un mot. Puis-je le dire en deux mots ?
Bien sûr.
Alors je dirais vivre ensemble.
Très beau mot. Allons-nous refaire des activités pour remettre la courtoisie en avant ?
Oui, c'est un thème que nous avons retenu avec les équipes pédagogiques pour l'année. C'est-à-dire que depuis plusieurs années, nous travaillons sur tout ce qui peut être travaillé au niveau du comportement entre nous. Donc la politesse, faire attention à l'autre, voilà, toutes ces choses-là. Et donc la courtoisie s'inscrit dans cette dynamique-là. Nous avions prévu de mettre un temps fort pour la journée de la laïcité et nous allons continuer et vous proposer un autre projet d'ici la fin de l'année. Mais ce sont vos professeurs qui vous dévoileront ce projet-là.
Comment avez-vous eu l'idée de faire ce projet ?
Ce projet est issu d'une réflexion pédagogique avec les professeurs. Nous regardons, outre le fait d'enseigner des savoirs, comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi des savoir-faire et des savoir-être. Et nous regardons aussi ce dont vous pourriez éventuellement avoir besoin. Non pas que vous ne l'ayez pas, par exemple, par l'éducation de vos parents, vous l'avez aussi bien entendu, mais peut-être le travailler de façon plus approfondie au collège. Et c'est comme ça qu'est né ce projet courtoisie, qui est donc le fait de partager des choses ensemble, d'avoir des valeurs communes, évidemment, telles que la politesse, etc., le respect de l'autre. C'est aussi se prendre en compte, bien entendu, mais prendre l'autre en considération, parce que c'est très important.
Est-ce que les professeurs ont voulu faire d'autres activités que celle-là ?
Les professeurs peuvent tout à fait faire d'autres, mener d'autres projets ponctuels ou un petit peu plus longs dans le temps, s'ils le souhaitent, bien entendu. C'est dans l'autonomie du professeur. Effectivement, un professeur peut tout à fait le faire. Ce que je peux vous dire, c'est que les professeurs ont un regard extrêmement bienveillant sur les élèves au Collège de la Galaberte, comme ailleurs, hein, d'ailleurs. Et essayez vraiment de répondre aux besoins que vous pouvez avoir. Et ce type de projet fait partie de projets éducatifs et pédagogiques qu'ils peuvent mener.
Merci, Madame la Directrice, d'avoir répondu à mes questions.
Merci à vous. J'ai trouvé vos questions extrêmement intéressantes. J'y ai répondu le plus sérieusement possible, bien entendu. J'espère que nous aurons l'occasion de vivre d'autres moments forts comme celui qui a marqué la journée de la laïcité et que nous pourrons débattre peut-être plus largement sur des thèmes tout aussi importants. Merci à vous.
Merci.
Merci Kéla, Evan et Iana.
Voilà, c'est fini. Merci à tous. Merci à Léna pour le choix des musiques. C'était Galabert City, le son du collège.
Galabert City,
le son du collège.
Une émission réalisée par les élèves du collège de la Galaberte.
On y parle de tout et n'importe quoi.
Retrouvez-nous sur www.radioescapade.org.